Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
L'accès équitable à l'éducation pour garçons et filles est l'un des défis majeurs que la RDC et ses partenaires s'efforcent de relever. D'après les experts, depuis quelques années, le taux des jeunes filles scolarisées a connu des progrès. Voilà, il y a eu par exemple une campagne lancée par l'UNICEF, toutes les filles à l'école. Cependant, dans plusieurs coins du pays, on retrouve plus des garçons que des filles dans les salles des classes. Alors, qu'y faire pour favoriser l'accès équitable des filles et garçons à l'éducation? Madame Espérance Baïdila, vous êtes professeure des sciences de l'information et de la communication. Bonjour.
Bonjour, Jody.
Les bonnes fêtes de la femme.
Bonnes fêtes pareillement à tout le monde. Nous venons tous les femmes.
Alors, Madame Espérance Baïdila, qu'est-ce qui explique cette disparité entre jeunes filles et jeunes garçons par rapport à l'accès à l'éducation?
Mais pour répondre d'emblée à cette question, je dirais que même s'il y a eu des campagnes de sensibilisation pour envoyer les filles et les garçons à l'école, mais encore les mœurs et les cultures font que les filles ne soient pas toujours envoyées à l'école autant que les garçons. Et la pauvreté aidant, les familles n'ont pas toujours des moyens d'envoyer tous les enfants à l'école. Et quand il y a un choix à faire, ce sont les garçons qu'on envoie à l'école parce que demain, c'est eux qui seront, entre guillemets, les chefs de famille.
Voilà, donc ce sont là les raisons qui font que les filles ne vont pas beaucoup à l'école par rapport aux garçons.
Mais aussi, encore les charges de famille qui reposent, les charges des ménages qui reposent encore beaucoup sur les filles. Quand les filles doivent aider aux travaux ménagers à la maison, là on est dans l'éducation qui reste encore très sexuée entre les filles et les garçons dans notre société. Les filles restent à la maison pour aider à faire les travaux ménagers, à faire les travaux qui font avancer la famille. Pendant que les garçons ont le temps, ont plus le temps pour aller, par exemple, à l'école. Voilà un peu toutes ces choses. Et les filles, en fait, dans ce cas, dans certains milieux des provinces, on les marie très jeunes. Donc, en fait, elles sont faites encore dans notre culture pour se marier, pour reproduire, en fait, la famille. Donc, elles ne sont pas autant que les garçons à l'abri de tout ce qui peut les protéger pour aller à l'école.
Alors si, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un bilan des efforts déjà entrepris dans ces domaines pour favoriser un accès équitable des jeunes filles et des garçons à l'école? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de plus en plus aujourd'hui beaucoup de filles qui vont à l'école?
De plus en plus les filles vont à l'école. Par exemple, on a vu des études de l'UNESCO qui datent entre 2000 et 2005 où ces études de l'UNESCO disaient que 800 millions de personnes, dont les deux tiers sont des femmes, ils vont à l'école, mais ne maîtrisent pas les rudiments de l'écriture et de lecture. Donc, même si les filles vont à l'école, quand on est dans les statistiques, on voit encore que parmi les personnes qui restent analphabètes, le taux le plus élevé demeure encore dans la classe des filles. Et ça, c'est dans le monde entier. Mais plus encore en Afrique subsaharienne, où ces taux élevés demeurent encore dans les filles. Vous savez, aujourd'hui, même si les filles vont de plus en plus à l'école ou ont accès même aux études post-secondaires, mais parallèlement, il y a d'autres problèmes qui surgissent. Par exemple, les relations entre les titres et les postes, les relations entre les diplômes et les emplois, dont des nouveaux problèmes qui surgissent, en fait, qui font que même ces efforts-là ne sont pas très vus à un degré élevé des filles.
Et pourquoi, malgré que les filles vont à l'école, mais restent toujours analphabètes, qu'est-ce qui explique cela?
En fait, vous savez, les femmes constituent la grande majorité de la population dans notre pays ou dans le monde, mais encore, les jeunes font partie des 60% de la population en Afrique, dans notre pays, c'est 60%. Mais quand vous regardez de près, l'éducation demeure encore un enjeu, c'est un défi. Quand vous regardez le budget de l'État qui est réservé pour l'éducation, il est insignifiant. Ça voudrait dire que même si on dit qu'il y a autant de filles qui vont à l'école, mais quand vous regardez les chiffres, vous regardez les statistiques, même au niveau du budget, vous remarquez que le taux, le pourcentage qui est réservé pour le budget de l'État à l'éducation est insignifiant. Donc en fait, on ne pourrait pas s'attendre à des résultats probants qui montrent que les filles ou les garçons, les enfants sont envoyés de plus en plus à l'école. Il faut visiter nos quartiers pour voir que le matin, vous avez encore beaucoup d'enfants à l'âge de scolarisation qui sont en train de déambuler dans le quartier. Donc on peut observer et voir et montrer et dire que non, l'éducation demeure encore un grand défi dans notre pays ou en Afrique.
Voilà, ça demeure, c'est encore un grand défi dans notre pays, en Afrique. Alors, vous avez parlé des mœurs, de nos coutumes qui font qu'on ne puisse pas envoyer les filles à l'école, on préfère plutôt envoyer les garçons. Est-ce que cela veut dire que les filles n'ont pas les mêmes capacités que les garçons intellectuels?
Ça ne voudrait pas dire ça. Parce qu'en fait, quand je dis... Nous vivons en fait dans une situation de pauvreté qui est très très généralisée et quand les gens doivent faire des choix, ils envoient généralement les garçons à l'école compte tenu de tout ce que nous avons comme culture de socialisation. En fait, nous avons en fait des sociétés qui sont caractérisées par une certaine définition des rôles et les rôles sont très sexués dans notre éducation. Alors quand on doit construire les garçons ou les filles, on les construit différemment et c'est même inconscient parce que cela est non seulement dans l'apprentissage mais également dans ce que nous voyons faire tous les jours. Donc ce qui fait que les filles, quand il s'agit pour les familles de faire des choix, ne voyons pas Kinshasa. Le Congo est vaste et le Congo profond, en fait, ce n'est pas Kinshasa. Et même à Kinshasa, quand vous allez dans les quartiers périphériques, vous allez voir que les filles font des tâches, en fait, des grandes personnes plus que les garçons. Les enfants sont utilisés à faire des tâches qui font avancer la famille que les garçons. Par exemple, les filles vont puiser de l'eau, vont aller dans les champs, les filles vont aller dans les jardins avec leur mère, les filles vont vendre parce qu'il faut sauver la famille. Alors, s'il y a un peu de moyens pour faire étudier les enfants, ce sont les garçons qu'on envoie à l'école, compte tenu de cette culture, de cette mœurs qui voudrait que la fille demain soit marié et que le garçon soit celui qui protège sa famille. On est dans une socialisation qui est la nôtre, qui n'est pas juste, justement. Ce n'est pas une socialisation juste. Les filles ont autant de compétences que les garçons pour être. C'est pourquoi quand vous allez dans des classes à l'école primaire où il y a des filles et des garçons, de plus en plus les filles sont meilleures que les garçons. De plus en plus. Au niveau primaire, on peut le remarquer. Je suis présidente d'une école, présidente du comité des parents d'une école, dont je vis avec ces choses tous les jours. De plus en plus, les filles font des résultats qui sont très, très significatifs, qui sont vraiment très hauts, de plus en plus. Et il faut donner encore la chance aux filles de se réaliser. Donc, il n'y a pas de différence quand les gens sont enfants. On ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on le devient par la socialisation. L'éducation.
Voilà. On les devient par la socialisation, par l'éducation. Alors, les parents pensent que si on n'a pas assez d'argent, on préfère envoyer les garçons à l'école parce que c'est lui qui sera chef, qui va prendre en charge les autres. Mais est-ce que les filles n'ont pas aussi la capacité de prendre en charge la famille plus tard?
Aussi. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ce sont les filles en réalité. Mais en fait, on est dans une réflexion, moi je dis, contradictoire. Parce qu'en fait, quand vous regardez notre société, vous regardez nos familles, ce sont les filles, en fait, ce sont les femmes qui prennent en charge les autres socialement. Et même, ce sont les femmes. Mais aussi à l'opposé, quand vous allez dans un autre niveau, vous allez voir que les femmes, parce que on ne leur a pas appris à être des responsables, c'est-à-dire des gens qui prennent l'initiative, qui prennent des décisions sur les autres, même quand elles ont étudié et qu'elles travaillent, elles restent quelque part des mineures. Parce que quand elles sont dans le mariage, elles dépendent de leur mari. Et vous allez entendre dire que, par exemple, elles ne prennent aucune décision sans l'aval de leur mari, ainsi de suite. Donc ça reste dans la socialisation. C'est comme ça que les femmes ont été socialisées. Et elles ont été spécialisées dans une certaine, je dis, passez-moi le terme, irresponsabilité. Or, la femme a tous les atouts, autant ou même plus que les hommes. Ça dépend des capacités, des qualités qu'on a en tant qu'individu. Ça n'a vraiment rien à voir avec le sexe, au prime abord.
Voilà. Comment favoriser l'accès équitable des filles et garçons à l'éducation? Nous recevons aujourd'hui Madame Espérance Baïdila, professeure des sciences et d'information de la communication. Vous avez des questions et préoccupations, même des témoignages. Racontez-nous ce que vous vivez dans votre milieu. Appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Capissoir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Kiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sports toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Comment favoriser l'accès équitable des filles et garçons à l'éducation? Madame Espérance, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour retrouver cet équilibre, hein, cet accès équitable des filles et garçons à l'éducation?
Il faut d'abord que l'État, le gouvernement, comprenne que l'éducation est un enjeu mondial aujourd'hui et ça demeure un enjeu mondial. On ne peut pas développer un pays en mettant l'éducation de son peuple, de sa jeunesse de côté. On n'arrivera jamais. Alors, il faut mettre des moyens pour permettre que cela puisse arriver. Par exemple, on doit absolument arriver à faire que l'éducation primaire, ne fût-ce que ça, soit en fait une éducation où on ne paye pas. C'est obligatoire. Quand on doit rendre l'éducation obligatoire à ce niveau-là, ça voudrait dire que les parents n'ont pas besoin de posséder de l'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Il faut construire les écoles, il faut former les enseignants à ce niveau-là, il faut envoyer obligatoirement les enfants de 6 ans ou de 5 ans à 12 ans à l'école. Et c'est là où les personnes apprendront à lire, à écrire, à calculer, à compter, qui en fait leur permettra d'accéder à un niveau de liberté, à un niveau d'autonomie qui leur permettra encore d'accéder à d'autres sources de connaissances. Donc en fait, les pays aujourd'hui que nous appelons des pays développés ont rendu l'enseignement fondamental obligatoire. Et l'État congolais doit le faire. Il est dans l'obligation de le faire pour que nous ayons demain une jeunesse capable, en fait, de devenir autonome. Il faut commencer par là. Même si les gens vont faire les métiers, mais on ne peut pas faire les métiers qu'on ne sait pas lire, écrire, ainsi de suite. Donc l'État a la charge, c'est la charge de l'État, du gouvernement, des autorités politiques, de prendre des décisions qui vont dans le sens d'autonomiser la majorité de la population, la majorité des enfants, en les envoyant à l'école de manière obligatoire. C'est l'État qui doit le faire, c'est une décision des politiques. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas une famille, ce n'est pas une organisation non gouvernementale, mais c'est l'État. C'est un pouvoir public qui doit le faire, et le seul pouvoir public, c'est l'État, en fait, qui doit prendre cette décision. Créer des écoles, former des enseignants, sensibiliser les parents, pour que si un parent n'envoie pas son enfant à l'école, c'est une infraction. Il faut que les enfants aillent à l'école. Voilà si on peut dire, pour d'emblée. Donc ce n'est pas, les familles le feront, mais c'est d'abord de la responsabilité de l'État, du gouvernement, des gouvernants, des politiques, c'est leur responsabilité.
Voilà, rendre l'éducation obligatoire, et vous avez dit promouvoir la gratuité de l'éducation.
L'éducation fondamentale, c'est-à-dire l'école primaire, comme on dit chez nous, et on peut même aller en secondaire, permettre au plus grand nombre d'accéder à un diplôme d'État, d'accéder aux études secondaires, permettre à un plus grand nombre, c'est l'État qui doit prendre ces décisions. C'est une décision qui ne vient pas d'un individu, ce sont des décisions politiques que l'État doit prendre.
Voilà, c'est une décision, des décisions politiques que l'État doit prendre. Mais il y a déjà, je crois qu'il y a, on parle déjà d'un programme de gratuité de l'enseignement à l'école primaire à expérimenter dans certaines villes du pays.
Oui, on peut expérimenter. Comment on peut aujourd'hui, on est en 2000, en 2016 parler d'expérimentation. On n'a pas besoin d'expérimenter certaines choses aujourd'hui. Si nous avons des gouvernants qui ont étudié, qui connaissent la valeur de l'école, il faut que l'État mette un budget suffisamment sensible pour l'éducation des jeunes. C'est une obligation, moi je dis. On ne devrait pas discuter de ces questions. Parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui le monde, quand on est en train d'évoluer, il faut aider les enfants qui sont l'avenir de demain, parce que ce sont des projets, moi je dis, à long terme, qui finissent en fait par développer le pays. Permettre aux enfants, aux plus jeunes, d'accéder à l'éducation. Et ils seront préparés pour prendre la relève demain. Donc on ne discute pas sur ces choses. Pourquoi je parle de décision politique? Ce sont les politiques qui doivent prendre cette décision pour construire des écoles, pour former des enseignants, pour bien les payer, pour que la jeunesse soit bien formée pour demain, les filles et les garçons. Comme ça, on va accéder à une autre manière de voir les choses. On va transformer le monde, on va changer les systèmes d'éducation pour que demain, il n'y ait plus de 8 mars, qu'on ne parle plus d'égalité, on serait déjà dans l'égalité, on le vivra entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Il faut faire ce travail. C'est un travail qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des décisions qui doivent être prises au niveau le plus haut.
Voilà, il y a un auditeur qui soutient ce que vous dites, Jean-Cy Lunga, il nous a écrit depuis Kananga, il dit, pour promouvoir la scolarisation équitable des filles et garçons, les études primaires doivent d'abord être gratuites, dès la première jusqu'à la sixième année primaire, et que notre gouvernement augmente les salaires de tous les travailleurs de la RDC, parce que quelqu'un qui a 5 à 6 enfants avec les 100 000 francs congolais que l'État lui donne à la fin du mois, ça va lui permettre de payer les frais scolaires de tous ses enfants et acheter la nourriture et autres besoins pendant 30 jours. Il pose cette question impossible. C'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement de promouvoir c'est qu'en augmentant les salaires de nos parents et qu'ils prennent en charge les élèves de l'école primaire pour que les filles et garçons puissent avoir la chance d'étudier. C'est la réaction des Jean-Cy Lunga ou à Malengue, à Kananga.
Très bonne réaction, parce qu'en fait, quand vous dites augmenter les salaires, c'est peut-être difficile pour l'État. Là, on entrera dans d'autres débats. Mais l'État peut, en fait, faire en sorte que les familles, les populations accèdent à des services de qualité. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de l'accès à l'enseignement, à l'éducation des filles et des garçons. La responsabilité des politiques, c'est de mettre à la disposition de la population des services d'éducation de qualité, mais également des services qui soient gratuits, parce que l'éducation, c'est quelque chose qu'une personne ne peut pas acheter. Ça coûte tellement cher. Alors c'est l'État qui doit mettre cela à la disposition des gens. Ça fait partie des biens de luxe, être éduqué. Alors il faudrait que l'État prenne en charge tout cela. Les politiques doivent penser que si nous voulons demain développer ce pays, il faudrait absolument que nous puissions envisager l'éducation de qualité, mais également de quantité pour les filles et les garçons. Qu'on change de système d'éducation, que nous ayons des systèmes d'éducation qui rendent les gens autonomes, capables de participer à l'intérêt public, à l'intérêt de tout le monde, que nous puissions sortir de ce monde qui nous fait demeurer dans des intérêts privés, intérêts particuliers. Ça aussi, ça relève de l'éducation. Donc il faudrait que nous commencions à penser à ces choses de manière, encore une fois, je dis, obligatoire. C'est tellement important. Nous n'avons qu'à voir ce qui se fait en notre pays. Nous n'avons qu'à voir.
Alors, Madame Aïdila, oui, si les filles n'ont pas autant accès à l'éducation que les garçons, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence?
Mais les conséquences sont lourdes, monsieur Jody. Imaginez, par exemple, que nous avons une population constitué de plus des filles ou des femmes. Mais alors, ça voudrait dire que quelque part, d'abord, nous avons cette population qui est majoritaire en termes de nombre, qui n'accède pas à l'éducation. C'est-à-dire, on a affaire, aujourd'hui, on est en troisième millénaire, nous avons affaire à une population qui est brute, qui n'a pas accédé à l'éducation, qui n'est pas éduquée, qui n'est pas humain, voilà, qui n'est pas humanisée. Alors, qu'est-ce qui arrive demain? Nous aurons la majorité de personnes, parce que c'est ça la classe, qui ne prennent pas part aux structures de développement, qui ne prennent pas part à la chose publique, à la gestion de la chose publique, qui ne prennent pas part au débat et au vrai débat de l'heure, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas, qui ne savent ni lire ni écrire, ainsi de suite, donc qui ne sont pas instruits, qui ne sont pas éduqués. Donc il y a la majorité de la population qui est exclue de la gestion de la chose publique, mais également du débat, et du vrai débat dans le pays. Mais alors, ceci c'est une portion qui doit diriger le pays, qui c'est une pensée unique qui doit nous gouverner, ça ne pourra pas marcher. On ne peut pas se conformer. Il faut absolument qu'on arrive à avoir en fait une pensée plurielle, où il y a des gens qui pensent de différentes manières pour faire avancer notre pays, pour faire avancer l'humanité. On ne peut pas créer une classe des conformistes, des gens qui pensent de la même manière. Il faut plutôt que les gens soient transformés. Et cette transformation de l'esprit, du mental, doit se faire à partir de l'enfant. Quand les gens sont encore petits, il faut les construire à être des agents de développement. Voilà l'importance de l'école. Et c'est pourquoi on doit le rendre obligatoire. C'est pourquoi l'État doit mettre un budget conséquent par rapport à l'éducation de la jeunesse, à l'éducation de la masse, même à l'éducation des adultes.
Voilà, et certains pensent que si la fille n'a pas accès à l'éducation, elle sera pas autonome plus tard, elle va dépendre des parents ou de son mari et elle ne pourra pas être autonome dans la vie.
Mais aussi, elle ne pourra pas beaucoup apporter dans sa famille. Mais imaginez, regardez dans la société, quand vous avez une famille où la femme a été éduquée, la mère a suivi une bonne éducation, a reçu une bonne éducation, une instruction. Mais vous allez voir que c'est différent d'une autre famille où la mère n'a pas étudié. Parce qu'en fait, une femme qui est passée par le banc de l'école va aider ses enfants également à se réaliser en tant que de personne capable, autonome. Parce qu'elle pourra lire des livres et c'est à travers les livres, c'est dans les livres que les grandes idées sont cachées. C'est dans les livres qu'on trouve les grandes idées des grands savants. Donc en fait, elle sera quelqu'un qui pourra faire partager son savoir-faire à ses enfants et ainsi de suite. Cela va aller en se développant chaque année, chaque génération.
Voilà. Alors si aujourd'hui on doit, vous avez dit la solution aujourd'hui, c'est de rendre l'éducation des garçons et des filles obligatoire et offrir une éducation gratuite à tous les enfants, cela va permettre l'accès équitable des filles et garçons à l'éducation. Alors cela implique en amont qu'il faut d'abord construire des écoles, avoir plusieurs écoles à travers le pays et les enseignants, si les enfants ne payent pas, comment vont-ils vivre? Il y a toutes ces questions qu'il faut résoudre au préalable.
Oui, mais c'est la charge du gouvernement, c'est la charge de l'État, du pouvoir public. Donc en fait, nous discutons de ces choses, mais ceux qui dirigent en fait le pays le savent, ils doivent le savoir en fait. Si ce sont des gens qui sont passés par les bancs d'école, vous savez, ceux qui ont étudié vers les années 1960 n'ont pas forcément payé les études. Ils sont des gens bien instruits. Parce qu'en fait, c'est vrai, il y a le problème de nombre. Mais en ce temps-là, l'éducation, l'instruction était gratuite. C'était obligatoire. Il fallait faire passer. On cherchait même les enfants par les colons pour les envoyer à l'école. Parce qu'en fait, c'est l'école qui fait la différence entre les gens. C'est l'instruction, l'éducation qui fait la différence. Ce n'est pas le fait d'amasser des richesses, non. Parce que quand on a amassé des richesses et qu'on ne sait pas, on n'a pas été instruit pour bien les utiliser, ou les utiliser à bon escient, on ne va pas profiter ou faire profiter de ces richesses-là. Mais l'éducation, par contre, c'est quelque chose qui demeure. C'est quelque chose, je dirais, qui est éternel et qui fait que les gens, les personnes se découvrent et se réalisent, mais également qui font que les pays puissent aller de l'avant, construire les nations. Donc en fait, il n'y a même pas à discuter. C'est tellement essentiel que les gouvernants, le pouvoir public, doit mettre ces moyens-là, éduquer sa population. Dis-moi ce que tu donnes à connaître à ton peuple, je te dirai qui tu es. Il faut donner des moyens, construire des écoles, former des enseignants et mettre en place un programme qui permet l'autonomie des personnes, qui permet aux personnes d'être transformées de l'intérieur. En fait, il faut penser à ces choses. Il faut penser à cela.
Il faut penser à cela. Merci, Madame Espérance Baïdila. Je rappelle que vous êtes professeure des sciences de l'information et de la communication. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de l'accès équitable des filles et garçons à l'éducation. Bonne journée et à la prochaine.
C'est à moi de vous dire merci. Bonne fête pour toutes les femmes.